Faut-il donner leur nom ? Kozu, Demalo, Belena, Tsala, Voila, Zonta, Babosi, Tantisiloé, Mama Weda, Lona la bombasse, Jojo le boudin de con, Ongi le diable, Jola le dur, les voilà, bienvenue. Comme pour un texte de théâtre, le livre s'ouvre avec le nom des personnages, mais « Papa tombe dans la lune » est un roman, le premier du dramaturge Dieudonné Nyanguna, un texte vital, pulsionnel, plein de cadavres, de livres, de poètes, de clowns, de chiens hyènes, qui se passe dans trois pays imaginaires situés quelque part sur l'équateur, un roman de fulgurance et de prophétie. Bonjour Dieudonné Nyanguna.
Bonjour Pascal.
Vous êtes depuis 20 ans l'un des auteurs les plus inventifs du théâtre contemporain, artiste associé du Festival d'Avignon en 2013, plus tard du Théâtre des quartiers d'Ivry. Vous jouez aussi bien en France que dans toute l'Europe, Berlin ou Lausanne. Et depuis quelques mois, vous tournez dans plusieurs villes africaines avec un spectacle intitulé « De ce côté ». Il faut rajouter que vous avez créé le Festival Mansina sur scène à Brazzaville. Quelle ne fut donc pas ma surprise de lire de vous un roman ?
Oui, il le fallait bien. Enfin, il le fallait bien, je ne sais pas s'il le fallait bien, mais ça s'est fait sentir comme étant un besoin, un réel besoin qui était aussi non sans urgence, oui. Parce que ça fait longtemps que je voulais écrire un roman et finalement j'avais commencé dans ce longtemps-là d'écrire des ébauches de romans et ces ébauches à un moment ont constitué évidemment une palette assez intéressante. Mais l'activité de théâtre étant tellement pressante et urgente, c'est bien que c'était le théâtre qu'il fallait vite d'abord mettre en scène et mettre en lumière et mettre en édition parce qu'il avait cette urgence-là. Maintenant qu'il y a une petite aisance au niveau du théâtre où ma compagnie est conventionnée puis passée compagnie nationale, donc j'ai une sûreté, une garantie au niveau du théâtre. Maintenant je peux retourner à d'autres amours de l'écriture.
Alors ce n'est pas un roman comme les autres, on va en parler, c'est pas un roman classique ou psychologique, c'est plus explosé et plus explosif, on est d'accord?
Oui, explosif, oui. Explosé aussi, parce qu'il y a un écartelement du monde, un écartelement de l'écriture, de la matière. Il y a une espèce de destruction de la page, c'est-à-dire comme si j'avais une envie de déchirer la page de telle manière que la lecture soit un peu ces morcellements d'expression-là, comme quelque chose qui éclate. Voilà, oui.
Alors vous dites « je voulais un roman ». Vous dites l'urgence de ce roman. Oui. Qu'est-ce que le roman permet que ne permet pas le théâtre ?
Bon, je ne sais pas s'il permet quelque chose que ne permet pas le théâtre, mais surtout ce que je voulais, c'est qu'en même temps, j'ai vraiment une entrée comme ça, une place dans l'espace de la prose, parce que c'est quelque chose qui est en moi depuis très très longtemps et que j'ai pas eu le temps, bien évidemment, de bien exploiter, de bien mettre en lumière. Qu'est-ce qui permet, qui ne permet pas le théâtre, que le théâtre ne permet pas ? Bon, d'accord, on va rentrer dans une bibliothèque, on va acheter un roman, on va s'asseoir chez soi, on va le lire. On peut aussi le faire pour une pièce de théâtre. Peut-être que beaucoup plus difficile de lire une pièce de théâtre chez soi ou dans le métro. On ne lit pas le théâtre aussi facilement comme on lit du roman.
Et oui, moi, et c'est plus réputé difficile à lire, en tout cas.
Voilà, c'est plus réputé difficile à lire le théâtre que le roman. Et comme moi, j'ai une écriture qui demande vraiment d'être lue. Combien de fois qu'après mes représentations théâtrales, les spectateurs n'ont pas demandé les textes à la sortie pour dire on a bien aimé, mais on aimerait bien revenir sur le texte pour mieux comprendre. Donc, du coup, ce besoin d'être lu de façon beaucoup plus populaire et très. Je le sens aujourd'hui de manière vraiment très, très urgente. Il faut que je sois lu.
Alors, c'est un roman, mais quand même, ça ressemble un peu à votre théâtre, Dieudonné Nyanguna.
Puisque c'est quand même Dieudonné Nyanguna qui écrit, je vais dire, à un moment, la poétique de l'auteur reste la même, hein, c'est la même poétique, ça vient de la même boutique, si on peut dire ça comme ça. Bon, même si le mot boutique n'est pas assez charmant, on va dire ça sort de la même matrice. Parce que j'écris, quand j'écris au début, je ne donne pas une forme, la forme vient après. J'écris d'abord des matrices, ça veut dire des longs chants comme ça, comme des longs souffles. Des diatribes comme ça qui sortent. Une fois que j'ai vidé tout ce que j'avais dans mon bidon, alors je sais très bien que j'ai plus rien à dire. Et c'est par rapport à qu'est-ce que je vais faire avec que je vais décider de la forme. Si j'ai une urgence au théâtre, parce qu'il me manque une pièce par rapport à mon conventionnement, il faut que je produise une pièce là où je suis artiste associé. Alors là, la matrice, elle passe au théâtre. Et si évidemment il n'y a pas d'urgence, elle peut prendre une autre forme. Ouais.
Je vous cite « Dehors, la vie commence comme si quelqu'un avait crié « Action ». Et je me dis que c'est un roman d'action en fait que vous avez écrit.
Ah, ça, c'est pas mal, ouais, ça, c'est pas mal, parce que je me souviens, quand j'étais ado, je rêvais ça, écrire des romans d'action, mais qui auront évidemment une plume très littéraire, mais dont l'énergie, ça doit être quelque chose d'assez action, d'assez vivant, et ouais, qui actionne bien comme un bon film où on ne s'ennuie pas, ou comme une pièce de théâtre, et évidemment, un vaudeville où les portes claquent à tout bout de champ, où les comédiens lâchent des tirades interminables, où les actions se chevauchent comme ça. Je voulais vraiment un roman comme ça, et avec une exigence dans la langue, avec une inventivité de la langue. En même temps, oui.
Et puis, c'est un roman violent. C'est un roman, on l'a dit, un peu explosif et explosé. Est-ce qu'il faut rappeler que vous avez commencé à écrire Dieudonné Yanguna à la fin des années 90 et qu'à cette époque-là, c'est la guerre au Congo. Et que donc, votre écriture est une écriture marquée par la guerre, marquée par la vie, la mort et la survie. Donc, il y a cette urgence, non ?
Bien sûr, bien sûr. Ça... Quand même, comme dit le vieux Milan Kundera, quand un auteur parle, il est important d'abord de savoir d'où il parle. Et c'est là où je trouve que, oui, l'analyse que vous avez poussée tout à l'heure est complètement juste, parce que la matrice de mon écriture est cette période congolaise des années 90, donc le terreau dans lequel, adolescent, jeune, j'apprenais le théâtre et que j'écrivais. C'est dans ce vivier-là qu'évidemment jaillit mon écriture, dans ce fumier, dans cette mélasse de corps ouverts, de chair déchirée, de femmes violées, de ciel éclaté. Voilà, comme si on avait une espèce de fleur qui sortait sur le fumier comme ça. Bon, après, je ne dis pas que mon écriture soit une fleur, mais j'aimerais bien qu'on me le dise quand même.
Elle est un peu vénéneuse quand même, votre fleur, je trouve, Dieudonné Yanguna.
Non, venez-nous, je ne sais pas trop, mais je sais qu'elle a des épines tout autour pour être protégée. Donc, du coup, quand on veut la prendre de force comme ça, tchac, elle pique. Ouais, c'est une fleur qui a des épines, ouais, je la reconnais.
Papa tombe dans la lune, c'est quoi la lune ? Vous nous direz cela tout à l'heure après avoir écouté Eut, révélation RFI, premier titre, Défense.
Sur le dos, j'écris mon départ. Lunaire éclaircie, c'est déjà la nuit.
RFI, le premier titre de ce jeune artiste Eut et le premier roman de Dieudonné Yanguna, qui est aujourd'hui notre invité. Donc pour son roman Papa est tombé dans la lune. Alors roman fou, polyphonique, dans lequel on se perd parfois et on s'émerveille souvent. Mais alors, dois-je vous l'avouer, je suis incapable, Dieudonné, de faire un résumé de Papa est tombé dans la lune. Est-ce que vous pouvez ?
Je vais essayer. Je vais essayer comme un exercice de théâtre. Je vais dire, alors, t'as un monsieur qui est là, qui est couché sur la table de sa cuisine en attendant la mort. On ne sait pas encore comment lui est arrivée la mort. Sauf que donc, il a 3 balles comme ça, 6 balles dans son plexus. Cette dégouline de sang, c'est assez gore, tout et tout. On est vachement devant Scream, quoi. Comme comment Scream. Alors, on se demande qu'est-ce qui lui est arrivé. Sauf qu'il peine tellement qu'à un moment, il y a ses frères qui sont tout autour avec son gosse. Ils disent, ah, je crois qu'il faut faire le nécessaire pour vite appeler la faucheuse parce qu'on ne peut pas le laisser continuer à souffrir dans cet état. Alors ils vont chercher toutes les différentes manières pour vite lui accorder la mort, pour le soulager. Sauf que non, la vie est beaucoup plus têtue et donc le type s'accroche à sa vie à partir de ce moment-là. Et ça, c'est la première partie qui est racontée par son fils Kouzou, jusqu'à ce qu'il aille chercher du coup le jumeau de son père, donc le type qui est en train de canner, et son jumeau arrive pour évidemment lui faire une succion sur le plexus, là où dégouline son sang, parce que c'est le centre de l'âme, le plexus, dans la cosmogonie donc des peuples de ce roman qu'on appelle le peuple des crâneurs. Donc il va lui retirer l'âme par le plexus, parce que c'est son jumeau, il peut lui donner la route. Là, c'est la fin du premier chapitre, mais il n'est pas encore mort. Et à partir du deuxième chapitre, un va commencer à raconter d'où est parti Desmalo, donc ce personnage principal, comment il est né, comment il a grandi, jusqu'à ce qu'on en arrive là où il est couché sur la table de la cuisine. Sauf que chaque chapitre est raconté par un personnage qu'il a rencontré. Ça se fait comme au relais où quelqu'un donne le témoin à le premier, donne le témoin au second, et le second reprend là où le dernier s'est arrêté, et vice-versa. Donc c'est évolué comme ça, comme les maillons du chêne, jusqu'à revenir à Kouzou le fils, pour se retrouver là où on avait commencé, sur la table de la cuisine. Et là, Desmalo peut se lever, une fois que toute son histoire a été racontée comme on fait des funérailles, et que ses éloges ont été faits, il peut se lever du coup de sa mort, marcher, prendre la 2 chevaux et rentrer dans la lune.
Il faut rajouter que cela se passe dans des pays imaginaires, oui, qui ont été colonisés, oui, par Malogoum,
oui,
et que l'on y parle des langues inconnues.
Oui.
Par exemple, les crâneurs parlent Ngela.
Oui.
Vous parlez Gnela ?
Non, c'est une invention de Nyanguna. Quoi que Gnela en Congo veut dire l'argent.
Ça veut dire qu'il ne parle que d'argent.
Ouais, il parle que d'argent.
Et le coin-coin est la langue de Salima.
Ouais, le coin-coin, c'est des gens qui parlent comme des canards. C'est qu'on n'arrive pas à les entendre et chaque fois ils sont là à couiner, à coin-coin, à se plaindre sans cesse. Voilà.
Et dans ces pays imaginaires, on compte en pigeons. C'est l'unité de compte.
Il y a une troisième langue, la langue de Mikissi, le zoposant.
Oui, c'est vrai.
Les opposants, évidemment, c'est la langue des gens qui opposent toujours. Eux, ils opposent. Hein. Qu'ils soient d'accord, ils opposent. Qu'ils ne soient pas d'accord, ils opposent.
Et donc, on compte en pigeons.
Oui.
C'est une drôle d'idée. D'où ça vous vient, Dieudonné Nyanguna, cette affaire ? Il m'a fallu, je ne sais pas, le lire 4-5 fois avant de comprendre de quoi vous parliez.
Bah, comme on dit, aujourd'hui, j'ai 46 piges, voilà.
C'est 46 pigeons. Alors, c'est un roman polyphonique où chacun prend la parole, vous l'avez dit, mais le récit est tenu par... Donc, Kouzou, le fils dont le père Desmalo est en train de mourir, je ne vais pas vous répéter sur la table de la cuisine, pendant que sa femme regarde la télé. Mais oui. il meurt ou il ne meurt pas ?
Il rentre dans la lune parce que il y a quelque chose que j'adorais quand, gamin, je suis parti au village chez ma grand-mère et que là-bas j'écoutais le Congo profond. Au niveau de la langue et au niveau de la tradition, ils n'ont pas à utiliser le mot mort qui est très oni là-bas. Ils utilisent le verbe partir. Donc, dire, oh, il était parti. Ils n'aiment pas dire le mot mort parce qu'il est, il a consonance très, très péjorative. C'est comme si l'âme s'éteignait. Pour eux, l'âme ne s'éteint pas. Le corps s'éteint, mais l'âme s'en va ailleurs, comme d'autres parleront d'incarnation. Bon, bref. Mais ce qui m'intéressait, ce n'est pas forcément qu'on y croit à cette culture. Ce qui m'intéresse, c'est la beauté poétique de dire partir. Je trouve ça beaucoup plus, beaucoup plus subtil, beaucoup plus poétique de dire partir. Plutôt que mort, comme si on arrêtait quelque chose, comme si on bloquait.
C'est un roman sur le père, sur la mort du père, en fait.
Oui.
Ça pourrait être un roman réaliste.
Ça serait la troisième partie de la trilogie, puisque c'est une trilogie que j'appelle la trilogie de Papa. Donc là, c'est le premier volet qui est sorti, qui s'appelle Papa tombe dans la lune. Le prochain volet, il s'appelle La mise en papa, et sortira donc en janvier 2023. Et le dernier tome s'appelle Salve d'honneur pour orchestre à papa, et sortira en janvier 2024. Et là, j'en aurais fini avec la trilogie de papa. Pourquoi ? Parce que je voulais écrire sur mon père, qui était le premier grammairien congolais. Donc, Monsieur Nyanguna Auguste Michel, qui a beaucoup enseigné à Nice, entre autres, et dans pas mal d'universités aussi en France. Bon, bref. On l'appelait le catcheur à l'université Marie-Ngabi de Brazzaville. Le catcheur parce qu'il était dur comme professeur et très strict. Mais par contre, on l'adorait quand même.
Mais c'est lui qui vous a donné le goût de l'écriture, le goût de la grammaire, le goût de la langue.
Oui, c'est le monsieur qui m'enfermait dans la bibliothèque à l'âge de 6 ans pour que je descende de sa bibliothèque. Donc le premier jour, il me fait rentrer dans la bibliothèque, il me donne le dernier des Mohicans. Il me dit, il est 7h, je reviens à 16h, tu me fais tout le roman.
Bonne éducation, mais stricte en effet. Dieudonné Nyangouna, j'aimerais que vous nous lisiez donc un extrait de votre livre. C'est le début du roman et c'est donc le portrait des Malo, votre père de fiction.
Des Malo est un homme qui ne fait pas dans la dentelle et son corps n'a jamais été facile à comprendre. Il avait déjà résisté à tous les titans de la cosmogonie crâneur avant que le monde, comme il boite aujourd'hui, ne le fasse marrer. Il a toujours eu une longueur d'avance sur la fin de toute chose. Des Malo connaît toutes les étapes du vivant dans la mort et que la mort elle-même peine à faire comprendre au vivant. Il a suffisamment de carburant pour faire chanter la faucheuse. Mon père peut crever autant de fois que possible pour se réveiller dans le passé, défaire ses funérailles futures et se marier. Remonter le temps, c'est son fort. Il a toujours fait ça, comme on va au Cinoche, avec un gobelet de pop-corn et une bouteille d'hypogrominus bien tapée. Maman raconte que papa marchait pieds nus sur un clou de 15 cm et le bout de fer lui demandait pardon en se pliant 4 fois. Il ouvrait la 4e dimension du jetable humain avec un sabre de la région de Mikissi, puis frappait le bras d'acier sur les pages de ce livre maudit en criant « Parle, s'il est vrai que tu es arrivé jusqu'à nous !» Et le livre parlait tout seul dans la cuisine pour se mettre à jour. À 15 pigeons, Des Malo avait arraché son cœur pour le placer à l'endroit où il le pensait juste et bien, au centre, sur le plexus géant, afin d'équilibrer les hémisphères. Avec ça, je ne comprends toujours pas comment mon père peut en baver aujourd'hui sans que le ciel ne tombe.
Extrait de Papa tombe dans la lune, votre roman Dieudonné Nyangouna, et on entend là l'art de l'acteur. Parce que vous êtes un acteur.
Oui.
Chez vous, qu'est-ce qui prend le pas d'ailleurs ? C'est l'acteur ou l'auteur ?
J'en arrive pas à séparer les deux parce qu'au fait, j'ai appris les deux à la fois. Quand j'apprenais le théâtre, j'étais déjà en train d'écrire des petits trucs, des petits poèmes, des petites scénettes dans la bibliothèque de mon père. Et c'était le goût de l'écriture qui m'a emmené au théâtre. Et aussi, le goût du théâtre m'a emmené à continuer à écrire du théâtre, puis à articuler cette chose-là avec un sens très gourmand et très gourmet de la langue. Ça, c'est pas simplement le fait d'écrire, c'est aussi le fait que la personne qui m'a appris le théâtre, Massengo Mambongolo, m'a su faire rentrer dans la bouche en tant qu'acteur ce goût d'articuler, ce goût d'aimer les mots, ce goût d'être bavard avec la langue sur un plateau, comme un besoin insatiable de jouer de la langue. Et donc du coup ça va aussi avec ce goût de lire et d'écrire. Je crois que je sais vraiment pas qu'est-ce qui prend le pas, sinon je dirais les deux quoi. C'est une espèce de cyborg au fait, c'est un alien. Ouais, c'est un alien.
Vous êtes un alien. Alors, petite explication de texte sur ce que l'on vient d'entendre. L'hypogrominus, c'est de la bière.
C'est la bière, hein, les crâneurs.
Et on peut tuer des hypogrominus, c'est-à-dire boire beaucoup de bière.
Boire beaucoup de bière.
Jusqu'à
oui.
ce que mort s'en suive ou...
Je ne sais vraiment pas jusqu'à ce que mort s'en suive.
C'est un duel entre la bouteille de bière et celui qui la boit.
Qui va tenir à la fin, la bière
Alors,
ou son homme.
On a entendu le mot plexus, donc. On l'a dit, c'est l'âme, c'est le centre, c'est l'essence. Vous l'utilisez, mais des dizaines, peut-être même des centaines de fois dans ce roman.
C'est fait exprès, justement, pour rappeler le lecteur qu'au fait, l'âme de ces personnages-là, à cet endroit-là, entre le ventre et la poitrine-là, au niveau du plexus-là, donc qu'on appelle le centre de l'âme chez l'écraneur, et que tout est une affaire de plexus. Et comme on parle chaque fois de l'âme, l'âme de la vie, l'âme de la nature, l'âme des dieux, l'âme de la tradition, donc c'est le plexus de quelque chose. Donc, il faut garder l'âme de la chose, donc tout tourne autour du plexus, au fait.
Mais pour l'acteur aussi, tout tourne autour du plexus,
ah oui,
non enfin, ça vient de là, ça vient du ventre, ça vient pas que du poumon ou de la gorge.
Ça vient de là, c'est pour l'acteur justement, oui.
On pourrait passer une heure, bien sûr, sur cette page que vous venez de nous lire. Il y a cette formule magnifique aussi, le monde tel qu'il boite. Un peu plus loin, vous parlez de la douleur du monde. Mais pour vous, c'est qui va mal? C'est le monde ou ce sont les hommes?
Oh, mais pour moi, les hommes constituent le monde, hein. Il y a la nature d'un côté, puis il y a les hommes de l'autre. Puis, mais les hommes sont dans la nature, ils sont bloqués dans cet écosystème. Mais le monde, c'est quand même nous. Ouais. Le monde, c'est nous. Le monde, c'est tout notre bordel. Le monde, c'est notre invention. C'est notre théâtre. C'est notre théâtre. Dès qu'on se lève le matin, on commence le monde. Et quand on va se coucher, bah, on le met sur pause. Mais sur pause, et le lendemain, on appuie play.
Mais c'est un peu une pétaudière, le monde que vous décrivez.
Non, c'est pas si grave que ça. C'est quand même nous.
C'est quand même nous.
Attends, il y a pas mal de choses intéressantes non plus dans l'affaire. Ils descendent des hippogrominus, voilà. Ils rigolent, ils ont l'université des crânes, ils inventent des gags, voilà. Ils inventent plein de choses. Puis de temps en temps, une petite pendaison dans les bois pour quelques étudiants qui soient un peu trop récalcitrants. Mais bon, après.
En tout cas, vous avez des personnages assez hauts en couleur. Moi, j'aime particulièrement Jojo le boudin de con ouais. qui a une voix de morgue. Alors, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire de morgue? Puis il y a des zombies, il y a des chiens hyènes. Je me suis demandé à un moment si vous racontiez pas aussi un jeu vidéo.
Il y a de ça parce que je me suis beaucoup inspiré de l'univers de ma grand-mère, donc la mère de mon père. Comme je voulais travailler sur mon père, comme je l'ai dit, faire un hommage à mon père sur ce roman. Et donc, du coup, la meilleure manière de saisir le plexus de mon père, c'est de rentrer dans le ventre de sa mère. Donc, parce que mon père ne peut s'exprimer qu'à travers le ventre de sa mère. Et sa mère était conteuse. C'est d'elle que je tiens cet art-là de... Voilà, ma grand-mère était conteuse.
Ça s'appelle parler, ça, ce que vous venez de faire.
Voilà, ça s'appelle parler. Ça s'appelle parler, comme disent mes amis de l'île de la Réunion, battre la langue. Et donc, oui, et ma grand-mère avait un univers assez fantasmagorique comme ça, parce que ses contes étaient assez mythologiques, tout et tout, mais avec plein de personnages qui, à un moment, étaient très, très proches des Mille et Une Nuits, parce qu'elle racontait des contes qui étaient épiques. Elle commençait à 20h tous les samedis pour terminer à 6h du matin. Comme c'était le conte initiatique parce qu'elle était guérisseuse, donc des contes qui permettaient de soigner ça, d'enseigner à tel endroit, de faire comprendre ta spiritualité, tout et tout. Il y avait un univers fantasmagorique, et un univers très très proche qu'on peut trouver, comme si on traversait des fois l'Odyssée d'Homère avec des espèces de calypso, des espèces de personnages avec un œil, des personnages de ça, mais aussi un espace qui pourrait être très très proche de la science-fiction. Donc on est complètement entre Hulk Hogan et Goldorak. On est dans des rapprochements comme ça, on est entre Terminator et son sang. Voilà, ça tourne autour, on est entre Catwoman et l'autre, et Calypso encore. Et donc, ces univers-là. Et moi, c'est un bassin comme ça, un bassin poétique qui m'a toujours intéressé, qui est beaucoup plus difficile à exploiter au théâtre et beaucoup plus facile au roman. Parce qu'au théâtre, là, ça deviendrait une question de production, c'est pas une question d'écriture. Au théâtre, là, il faut de la production. Mais alors là, mais vraiment.
Oui, avec des dizaines et des dizaines de personnages.
Avec des dizaines et des dizaines de personnages, du décor. Mais évidemment, avec la prose du roman, en écrivant ça, alors ça, c'est le pied, on peut y aller, quoi.
Alors c'est un roman, c'est un conte, c'est une épopée, c'est une mythologie, c'est une initiation, c'est tout ça à la fois. Le mot roman est presque trop étroit pour dire ce que vous écrivez du Denis Angoudin, non?
Peut-être qu'il était trop étroit pendant que je l'écrivais, et ce qui était important, sans le savoir ou en le sachant peut-être par omission, alors c'était de gonfler ce mot roman-là, hein, insuffler tous ces différents univers à l'intérieur du mot roman pour que ce mot roman prenne un peu plus de volume, qu'il soit moins rétrécé, qu'il prenne un peu plus de volume, de se dire, ah ben ça se permet aussi, on peut se le permettre de gonfler la conception qu'on peut avoir du mot roman, et surtout pour des amis qui adorent dire le roman africain, et moi j'aime bien qu'on n'enlève pas le mot africain, c'est très très important, même s'il n'y a pas un roman africain, mais c'est important de témoigner évidemment de certaines énergies, de certaines essences, et aussi du travail que font les uns et les autres dans différents coins d'Afrique. Et donc pourquoi j'en parle? Pour dire, ah ben, ne pas réduire justement la conception qu'on se donnerait du roman africain. Ça pourrait être autant riche qu'autant science-fiction, qu'autant... voilà, pour ne pas avoir une conception assez étriquée de ce qu'on pourrait s'attendre du roman africain.
Alors pour comprendre votre approche, votre littérature, votre écriture, Dieudonné Nyangouna, il faut peut-être repartir au Congo justement et nommer Sonny Laboutansi, qui fut le plus grand dramaturge des années 80 jusqu'à sa mort en 1995.
J'ai commencé par écrire de la poésie, n'est-ce pas? On aurait peut-être l'impression que la poésie est le genre le plus facile, mais je ne crois pas. Je crois que c'est le genre le plus difficile. Et on y reste longtemps, on se cherche, on essaie d'interroger. Et je crois que c'est par là qu'on devrait commencer. Qu'en principe, on ne devrait pas être romancier ou, ou dramaturge sans avoir écrit des vers. Bon, à un certain moment, je me rends compte que l'écriture, c'est vrai que ça sert à soi-même, à ses quelques amis, mais que ça peut servir également aux gens qui sont alentour. Alors j'ai voulu parler à plus de monde, s'il faut parler de cette manière-là. Et je me suis donc mis à écrire des pièces de théâtre, n'est-ce pas? Et puis, il faut dire une chose, c'est une forme de solitude l'écriture en Afrique, parce que la civilisation africaine n'est pas une civilisation d'écriture, à mon avis. C'est une civilisation de parole. Plus j'écris, plus je me sens seul, n'est-ce pas? Et ça m'oblige peut-être de chercher à gauche, à droite, et c'est pourquoi je suis arrivé au théâtre.
Sonny Laboutancy, au micro de Maryse Condé, est-il l'un de vos maîtres, Dieudonné Nyanguna?
Oui, Sonny est l'un de mes maîtres à penser. Il le restera. C'est l'avantage qu'il a eu dans sa vie. Hein? Le plus grand avantage de Sonny dans sa vie, c'est de m'avoir influencé.
Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il faut passer par la poésie pour écrire du théâtre? Est-ce que l'écriture du théâtre, c'est aussi rencontrer les autres quand la poésie est un art beaucoup plus solitaire?
Je ne sais pas s'il faut dire il faut, mais je dirais que c'est très important, c'est très utile, juste pour éviter le il faut. Mais après, on pourrait toujours le dire, il n'y aurait pas mort d'homme. Mais c'est juste pour que ça ne soit pas de manière formelle. Mmh. Mais je dirais que c'est vachement souhaitable de commencer par la poésie. Hier, j'en parlais encore quand j'étais à la maison de la poésie. Je leur disais une fois, on s'est retrouvé avec Kofi Kwaole pendant un festival et on avait une émission radio. On lui a demandé pourquoi vous n'écrivez que du théâtre. À l'époque, il n'avait pas encore publié de roman. Il a répondu parce que je suis ivoirien. Car si j'étais congolais, j'allais commencer par écrire de la poésie comme tous les auteurs congolais. Et là, je venais de l'apprendre, puis je me suis dit, mais c'est vrai que tous les auteurs congolais commencent toujours par écrire de la poésie, après ils s'en vont faire autre chose. Je trouve que c'est très formateur de commencer par la poésie ou de revenir sans cesse par la poésie, parce qu'il y a une espèce de liberté, et qui n'est pas sans difficulté justement, mais quand même une espèce de liberté qui demande d'aller puiser à l'intérieur de soi, de savoir s'assumer et de trouver le rythme adéquat pour arriver à faire entendre quelque chose. La question du rythme et la question de l'image, ouais.
Et la question du son peut-être, parce que la poésie fait sonner la
fait
langue,
sonner la langue
ouais. Et vous faites sonner la langue.
Ah bah oui, parce que si je n'arrive pas à battre le rythme et si je n'arrive pas à donner les intonations, les couleurs, les rondeurs et les aigus, évidemment, des images qui sont à l'intérieur d'une phrase, par comment je la fais ponctuer à l'oreille, alors là, je me pose la question de savoir pourquoi je vais continuer à faire ça. Non, c'est la question de la parole qui m'intéresse. Et cette parole-là, si je l'écris, c'est pour qu'elle arrive à être bien articulée, arrive à être bien sonnée, ouais. Donc c'est d'abord de la parole, comme Sonny parlait de la parole tout à l'heure. C'est d'abord de la parole. Même quand je fais l'activité solitaire d'écrire dans un coin, ça va être pour la parole.
Et tout haut, vous dites votre texte.
Oui,
est-ce qu'il faut,
j'ai dit à haute voix.
Vous écrivez à haute voix. Vous disiez tout à l'heure, il faut que mes textes soient lus. Est-ce qu'ils doivent être lus à haute voix?
À haute et intelligible voix, oui. Parce que c'est du son. C'est du son. Quand j'écris, je fais beaucoup de bruit. ma compagne est au courant, donc elle écrit aussi, donc il n'y a pas de problème. Puisque je fais beaucoup de bruit quand j'écris, je bats le rythme. Je peux revenir sur une seule phrase pendant toute une journée si je n'ai pas la bonne sonorité à l'oreille. Des fois, c'est le mot adéquat que j'ai écrit, le mot adéquat qu'il faut, mais au son, il me dérange. À l'oreille, ce mot me dérange. Alors, je vais trouver le mot qui sonne le mieux à l'oreille, qui permet de telle manière qu'il ait un charme sonore, qui le fait respirer autrement. Et c'est celui-là qui sera le mot heureux sur la page. Ouais. Donc je bats souvent les rythmes. Des fois, il m'arrive de compter comme on compte les syllabes dans une écriture classique. Ouais. Il m'arrive de compter, pas les syllabes, mais la respiration des mots pour avoir le rythme qu'il me faut pour dire « Non, non, là, il manque trois mots. Il faut que j'ajoute encore trois autres mots pour que la phrase garde un caprice alambiqué qui tourne comme ça, fait des acrobaties et tombe. »
Pour donner la vie, en fait.
Pour donner la vie.
La vie au texte.
Oui, oui.
Merci, Dieudonné Nyanguna. « Papa tombe dans la lune » est publié aux éditions de l'Œil d'Or. Et on vous retrouvera, c'est un bonheur, cet été au Festival d'Avignon, dans le cycle de lecture « Ça va, le monde ». De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, David Brocouet et Tiffany Menta à la réalisation, émission à réécouter sur rfi.fr et sur les réseaux sociaux.